Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Comme vous savez, j'aime bien les faire le grand écart. Et donc, les interviews précédentes, c'était Urbanera, un grand aménageur. Et maintenant, j'ai décidé, de descendre dans la domesticité, d'être plus proche, sûrement, d'une grande partie de nos auditeurs, et d'interviewer Élodie Villadier, créatrice de l'agence POC. Bonjour, Élodie.
Bonjour Myriam.
Alors, on peut le dire, on s'est rencontrés sur les réseaux, hein, ça fait chic. Bon, tout ça pour dire que je trouvais que c'était assez intéressant aujourd'hui où il y a tout le monde veut parler du fait d'être précautionneux avec les sols, de ne pas trop les utiliser, de travailler sur la domesticité, de construire la ville sur la ville, etc. D'interviewer une architecte qui en a fait son vrai métier après être passée dans plein d'agences d'architecture prestigieuses. Qu'est-ce qui fait, Élodie, qu'on passe du prestigieux au domestique ?
Revenir à l'échelle humaine. Il y a, alors c'est bizarre de dire ça parce que chaque projet parle de l'humain. C'était revenir à cette proximité avec l'usager. Et j'ai travaillé pour des grands noms comme Manuel Gautran, Jacob et McFarlane. Et c'était des projets incroyables.
Désincarnés ?
Désincarnés, peut-être pas. Mais c'est vrai qu'il y avait un rapport à la maîtrise d'ouvrage, qui est une maîtrise d'ouvrage...
Bien sûr. Publique ou privée avec...
Et finalement, il y avait peut-être cette frustration, bien qu'en vivant les espaces, en ayant travaillé par exemple sur l'IFM, et en se promenant dans l'IFM, j'étais plus à la place de l'usager. Je me disais, c'est peut-être cette frustration d'être en contact avec l'usager. Comment vous vivez le bâtiment ? Plutôt que les personnes qui avaient créé l'école de l'Institut français de la mode. J'étais, cette envie d'être...
Alors, d'être au plus près du maître d'ouvrage, qui est en fait un habitant non-sachant qui se pose plein de questions sur est-ce que je vais acheter telle ou telle maison, surélever, une extension, rénover, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'esprit du temps, et j'espère pour longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à tisser ce dialogue ? Parce que c'est pas évident. Quelque part, le nouveau propriétaire, il a plein d'envies, il a pas toujours les moyens, il sait pas toujours les exprimer. Qu'est-ce qui fait qu'on tire le fil ?
Au jour le jour. Il a peur. Le particulier est une maîtrise d'ouvrage qui est un peu véhiculé par la peur, en tout cas au départ. Et donc notre travail, ça va être de l'accompagner, de le rassurer, de lui dire que c'est normal d'avoir peur et d'essayer de lui montrer...
Il y a un petit côté psychanalyste, allongez-vous sur le divan.
Tout à fait, ça je ne le savais pas. Justement, quand on passe de grandes agences où on est un peu en retrait, dès qu'on se rapproche justement de l'humain, de cette proximité, il y a cependant là qui, au départ, est un petit peu déstabilisant.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a ce don ? Moi, je ne l'ai pas, donc je n'ai pas de problème avec ça. On a ce don pour parler aux particuliers. Parce que c'est vrai que c'est quand même une manière de faire son métier où, quelque part, on rentre dans la vie, dans l'intimité des gens. Et ce n'est pas évident de trouver les bons mots.
Ça dépend du particulier. Donc, le don, on l'a ou on l'a pas, en fait. C'est une question de feeling et d'échange. Je pense qu'on choisit son psy. Bon, on choisit aussi son architecte et l'architecte choisit aussi son client. Voilà, soit le feeling se fait, ça dépend vraiment de la personne en face. Et il y a certaines personnes, et il y a des fois des projets qui ne se font pas parce que justement la personne va être fermée à ce qu'on va lui proposer. Et donc c'est ça, c'est une question de feeling et de contact tout de suite. Et ça fait des rencontres incroyables.
Ouais. Un petit peu, donnez-nous quelques idées, parce que j'ai vu que vous faisiez quand même beaucoup d'esquisses. Après, il y a le côté rentabilité, je mettrai des petits guillemets, parce qu'à un moment donné, l'architecte ne doit pas perdre son âme.
Son âme, alors, ça dépend ce qu'on met par âme, ne doit pas perdre son temps. Parce qu'il y a le temps passé sur les projets qui peut être très chronophage. Et c'est ça aussi, il y a tout un équilibre. On rentre dans l'affect quand on est avec le particulier. Et à un moment donné, il ne faut pas se fermer à ça.
Voilà, c'est ça. D'accord.
Et dès qu'on rentre dans l'affect, il y a toute une auto-analyse aussi. On va vers le client, on l'accompagne, mais on essaye de s'accompagner aussi pour ne pas se perdre trop c'est une rencontre, donc c'est un dialogue permanent. Ils nous apportent autant qu'on leur apporte aussi.
Alors donnez-moi quand même quelques exemples là récemment de projets où à la fois ça a pu se faire parce que justement il y a eu ce dialogue, mais comment ça s'est fait?
Comment ça s'est fait? Il y a le dernier projet de surélévation que j'ai fait. Alors c'est aussi un voyage avec le client. C'est des projets qui peuvent être très longs. Ce sujet-là, un de ces derniers projets que j'ai réalisé, il a mis 4 à 5 ans avant de voir le jour. Donc c'est toute une relation qu'on crée et on devient même un membre de la famille. Donc ça peut être conflictuel des fois. C'est aussi parce que c'est des projets qui demandent des autorisations de la ville et des fois des dérogations à certaines règles d'urbanisme. Et donc on vient
expliquer,
passer dans des commissions particulières que nous-mêmes on connaissait pas pour changer à partir de certaines lois, changer les règles et créer ces projets qui sont finalement des projets de vie et qui permettent aux personnes de rester chez elles. Parce qu'ils vivent dans un 40 mètres carrés à 4 et finalement on essaye d'étendre pour qu'ils vivent dans un 80 mètres carrés à 4 et pour éviter qu'ils déménagent. Ça fait 20 ans qu'ils habitent dans un quartier, que leurs enfants sont à l'école, ils veulent pas que les enfants changent de copains. Voilà, c'est toute une vie qu'ils essayent de garder et on les accompagne là-dedans.
Y compris en allant, je suppose, pendant le temps du chantier, vivre ailleurs. Entre 40 et 80, c'est compliqué de rester sur place.
Quand on fait de la surélévation, de toute façon, vaut mieux pas rester sur place.
Est-ce que justement, dans ces surélévations ou extensions, vous arrivez à pouvoir proposer autre chose que du tout neuf, tout prêt, empaqueté, avec juste le mot IKEA ou autre écrit dessus, qui fait que on arrive à proposer autre chose,
Ça part souvent dans leur tête sur ces projets, sur ces fournisseurs-là. Et après, au fur et à mesure, on leur montre comment on peut avoir d'autres fournisseurs, comme la Maison Carrel, par exemple, qui utilise des matériaux du réemploi. C'est du carrelage qui est issu de chantiers, du carrelage neuf, non utilisé, mais qui permet justement au lieu de jeter les stocks à la poubelle, voilà, de récupérer ces objets-là. Ensuite, au niveau de...
Mais ça, c'est pas obligatoirement des matériaux biosourcés. Donc, c'est issu c'est du recyclage.
Voilà, mais ça, c'est du recyclage. Voilà. Après, pour le biosourcé, justement, on peut faire du neuf et biosourcé, justement, quand on fait de la surélévation, construit en bois, l'isolation, c'est de la fibre de bois. On peut amener... les clients dans cette démarche-là, ils sont très ouverts aujourd'hui à ce type de matériaux. Après, c'est sûr que quand on parle de IKEA, merci à Arte d'avoir sorti ce
Racontez-nous un petit peu ce documentaire que les auditeurs aillent podcaster un peu.
Ce documentaire d'Arte qui parle de l'utilisation d'écoles, des bois, comment ils arrasent des forêts entières et tout ce qui est finalement un peu mensonger derrière l'enseigne IKEA. Donc c'est très intéressant parce que voilà, ils ont un discours et ce reportage qui dure, je crois, 2 heures est très complet là-dessus et ça permettrait justement de changer un petit peu la donne. Ils sont extrêmement compétitifs sur les prix, donc c'est très difficile
bien sûr.
De proposer d'autres choses. Donc L'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'en ajoutant un peu plus, de toute façon, ils auront quelque chose de plus durable et c'est surtout qu'ils ne respireront pas des atmosphères.
Les phtalates.
Exactement.
Oui, alors, c'est quand même, ça s'adresse à une certaine, entre guillemets, catégorie, pas entre guillemets d'ailleurs, catégorie sociale, bobo, urbain, on va dire informé.
Quand on est à Paris.
C'est ça quand même, quand on est à Paris.
Quand on est à Paris, il y a...
Donc ils sont peut-être plus captifs, non ?
Oui, tout à fait. C'est plus facile à Paris. Pour, ils sont, c'est sûr, c'est la clientèle qui est comme ça. Ensuite... c'est quelque chose qui se généralise aussi un petit peu, mais quand on parle de budget, de toute façon, quand on fait appel à un architecte, on a déjà cette démarche et on a un budget...
Réflexion.
Tout à fait.
Créativité.
Exactement.
On se dit, bon, je vais quand même payer un peu l'idée.
C'est ça, tout à fait.
Bien, c'est pas toujours le cas.
Non, c'est vrai, mais ça se voit tout de suite, dès les premières rencontres. Il y a des personnes qui... Voilà, il y a deux types de maîtrise d'ouvrage. Il y a ceux, on leur impose l'architecte parce qu'ils ont une surface particulière et donc on leur dit, vous ne pouvez pas faire votre projet si vous n'avez pas un architecte. Et il y a aussi le client qui vient parce qu'il sait que l'architecte va
l'aider à transcender son projet.
Exactement. Ouais. Et qui sont très réceptifs. Mmh. Et voilà, on va leur donner plein d'idées. À nous aussi de nous restreindre parce qu'on a beaucoup d'idées. On
ouais,
peut en avoir à l'infini. Ouais. Donc voilà, il faut aussi...
Pour maîtriser un petit peu son énergie.
Tout à fait. Mais c'est passionnant.
Ouais. Alors, ce talent-là de travailler un petit peu sur la domesticité s'adresse aussi à des projets qui sont un petit peu plus familiaux, participatifs. Il y a une vraie impulsion.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une impulsion, moi, dans mon entourage. Donc, j'entends.
On peut dire que vous avez la quarantaine.
Tout à fait. Et donc, beaucoup d'amis qui...
Parce que d'habitude, c'est les très, 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 très jeunes qui se posent la question ou les très vieux.
C'est ça. C'était, je pense, avant. Aujourd'hui, à partir de 40 ans, on pense à sa retraite et à sa fin de vie. Je dis ça en rigolant. Mais c'est vrai qu'il y a tout un mouvement aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, là, dans un projet que je fais à Romainville, où c'est des particuliers qui veulent faire un projet... De mini collectif, je leur ai justement proposé, parce que c'est aussi dans une démarche environnementale, de se dire qu'il peut y avoir des pièces en commun dans un collectif comme la buanderie.
Bien sûr.
Pour éviter que chacun ait sa machine à laver. Donc c'est des petites choses, mais ça parle aussi à. Voilà, ça fait évoluer les mentalités. Et eux qui voulaient avoir des espaces locatifs, ben, essayer de faire des choses. Qui rassemblent les personnes qui vont vivre dans leur projet et qui, en même temps, ont une démarche écologique.
Bon, ben, on reviendra vous interviewer sur ce super projet participatif en espérant que, voilà, que ce ne soit pas juste des mots et que les personnes aillent jusqu'au bout parce que ce n'est pas toujours évident.
Tout à fait. En espérant que ça y aille, qu'ils aillent jusqu'au bout.
Merci, Élodie.
Merci, Myriam.
Et à bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.